Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tin. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين
par la figue et par l'olive, et par le mont Sinin, et par cette cité sûre. Très certainement, nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux, un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce dimanche 21 novembre 2021. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. La flotte de guerre iranienne s'étend. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. Au sommaire de ce journal, l'Allemagne doit agir sérieusement, de manière responsable, pour sécuriser les missions diplomatiques iraniennes, insiste Téhéran. La diplomatie iranienne condamne la décision du Royaume-Uni de désigner le mouvement de résistance palestinien Hamas comme organisation terroriste. Et puis l'armée yéménite a annoncé une opération militaire à grande échelle dans les profondeurs des territoires saoudiens en réponse à l'escalade des attaques du royaume contre le pays appauvri. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. L'Allemagne doit agir sérieusement, de manière responsable, pour sécuriser les missions diplomatiques iraniennes, a insisté Téhéran. La diplomatie iranienne a condamné une attaque par des inconnus contre le bâtiment de son consulat général dans la ville allemande de Hambourg, exhortant le pays européen à agir sérieusement et de manière responsable pour sécuriser les missions diplomatiques iraniennes. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a déclaré samedi que le gouvernement allemand devait s'acquitter de ses responsabilités dans la sécurisation des missions diplomatiques de la République islamique dans l'État européen, conformément à la Convention de Vienne. Le gouvernement allemand devrait adopter des stratégies cohérentes et efficaces pour empêcher une répétition de telles attaques tout en examinant attentivement les détails et en traitant sérieusement avec ses auteurs, a ajouté Khatibzadeh. L'attaque qui a eu lieu dans le district de Winterhude a causé des dommages au bâtiment, mais personne n'a été blessé. Selon le journal allemand Bild, le conducteur d'une voiture qui passait à vue de la fumée s'élevait vendredi devant l'entrée du consulat iranien, ainsi que deux hommes qui s'éloignaient de la zone à toute vitesse. Les médias locaux ont rapporté que l'incendie avait été causé par un cocktail Molotov lancé par l'agresseur ou les agresseurs. La police a immédiatement lancé une importante chasse à l'homme. Téhéran condamne la décision du Royaume-Uni de désigner le mouvement de résistance palestinien Hamas comme organisation terroriste. Le ministre iranien des Affaires étrangères a condamné la décision du Royaume-Uni de désigner le mouvement de résistance palestinien Hamas comme une organisation terroriste, soulignant que les droits de la nation palestinienne ne peuvent être bafoués en déformant les faits. Nous condamnons la décision du Royaume-Uni de déclarer le mouvement de résistance populaire du Hamas organisation terroriste. Les droits des Palestiniens ne peuvent être bafoués en déformant les faits. La seule solution politique pour la Palestine réside dans la tenue d'un référendum parmi tous les résidents autochtones, a déclaré Hossein Amir Abdollahian dans un article publié sur son compte Twitter officiel. Ces commentaires sont intervenus quelques heures après que le gouvernement britannique a annoncé son intention de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. L'armée yéménite a annoncé une opération militaire à grande échelle dans les profondeurs des territoires saoudiens en réponse à l'escalade des attaques du royaume contre le pays appauvri. Le porte-parole de l'armée yéménite a déclaré que 14 drones avaient été utilisés dans l'attaque de représailles contre des cibles à travers l'Arabie saoudite. Yahya Sari a déclaré que la base du roi Khalid a été frappée à Riyad tandis que l'aéroport international du roi Abdallah et les installations pétrolières d'Aramco ont été ciblées à Jeddah. Il a ajouté que des cibles militaires ont également été touchées dans les régions du royaume d'Aba, Jizan et Najran. Pendant ce temps, la coalition dirigée par l'Arabie saoudite a déclaré avoir mené une offensive majeure au Yémen, ciblant 13 zones à Sana'a, Saada et Ma'arib. L'Arabie saoudite a récemment intensifié sa guerre contre le Yémen, qu'elle a lancée en 2015 pour y rétablir un régime fantoche à l'assaut. Des dizaines de milliers de Yéménites, pour la plupart des civils, ont été tués et des millions d'autres déplacés depuis lors. L'actualité, c'est également la Cisjordanie occupée avec la mort d'un Palestinien par les forces israéliennes dans la vieille ville de Rots. L'armée israélienne allègue que deux Palestiniens se sont approchés de l'une des portes de la mosquée d'Al-Aqsa alors que l'un d'eux ouvrait le feu sur un colon israélien tué sur place et blessant trois personnes dont deux officiers israéliens. L'armée affirme que ses forces ont immédiatement riposté et tué le Palestinien sur place. L'autre Palestinien se serait échappé. Les fronts de résistance palestiniens réagissant aux évolutions ont salué l'attaque et ont appelé à la poursuite de la lutte contre l'occupation. Le Hamas affirme que de telles opérations sont une réponse naturelle aux crimes croissants du régime israélien contre les Palestiniens. Un incident similaire s'est produit dans la même région il y a quelques jours. L'Organisation internationale pour les migrations affirme que la situation reste toujours difficile pour les migrants bloqués à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Le chef de mission de l'organisation en Biélorussie affirme que les migrants n'ont toujours pas accès aux conditions de vie de base malgré une amélioration de leurs conditions. Des milliers de migrants campent depuis des semaines du côté biélorusse de la frontière avec la Pologne. Ils essaient d'entrer dans l'Union européenne, mais la Pologne bloque leur entrée. Varsovie accuse Minsk de fomenter la crise, une affirmation démentie par la Biélorussie. Minsk a commencé jeudi à rapatrier certains des migrants en Irak. Fureur et réaction aux États-Unis suite à l'acquittement d'un membre de la milice qui a abattu deux manifestants antiracistes l'année dernière. Le verdict du tribunal, selon lequel les tirs de Kyle Rittenhouse étaient en état de légitime défense, déclenche de nombreux débats houleux. Il y a eu des manifestations dans plusieurs villes. À Chicago, des manifestants de Black Lives Matter se sont présentés, portant des pancartes indiquant que la suprématie blanche équivaut au terrorisme. Des manifestations ont également éclaté à Tampa, en Floride, et à Minneapolis, également en Minnesota. Le verdict a suscité de vives critiques du système judiciaire et de son traitement préférentiel des suprémacistes blancs. Il y a également un nouveau débat sur les limites des droits des armes à feu et de légitime défense aux États-Unis. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. La flotte de guerre iranienne s'étend. Le commandant de la marine du CGRI a fait état de l'adhésion des navires Shahid Soleimani et Shahid Nazeri, ainsi qu'un nouveau navire équipé de missiles de défense à la marine du corps des gardiens de la révolution islamique. Selon l'agence de presse iranienne Tasnim, le contre-amiral Alireza Tangsiri commandant de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique, a déclaré ce samedi soir: les jeunes doivent connaître l'importance du Golfe Persique et savoir que notre pays est d'une grande importance géographique. Et cette importance nous a permis de gifler les Américains à 6 reprises en 1 an et demi de conflits avec les Américains, dont beaucoup n'ont pas encore été médiatisés. Il a souligné que l'Iran a le plus grand littoral au sud du pays, dans le Golfe Persique et la mer d'Oman. Nul ne peut changer le nom du Golfe Persique, car cette zone porte le même titre depuis toujours. Dès l'entrée dans le Golfe Persique, on perçoit la première île, l'Arc, viennent ensuite les 3 îles stratégiques, Boumoussa, grandes et petites tombes, à mesure que nous avançons dans les profondeurs du Golfe Persique. Ainsi, tout navire, dès son entrée dans le Golfe Persique, doit passer devant ces îles iraniennes. Bien sûr, aucun des navires étrangers ne traverse la zone, car dès qu'ils entrent dans le Golfe Persique, ils traversent les voies navigables internationales et n'entrent pas dans nos eaux territoriales, a souligné le contre-amiral Tanksiri. Le commandant de la marine du CGRI a popoursuivi: au cours des 8 années de défense sacrée, lorsque l'Irak a été vaincu par l'Iran, les Américains sont entrés en conflit direct avec l'Iran dans le Golfe Persique en 1987, afin de soutenir l'armée de Saddam. Pendant la guerre Iran-Irak, les avions irakiens étaient en contact avec l'USS Stark et vérifiaient, grâce au navire de l'US Navy, si l'espace était clair ou s'il y avait un navire iranien dans la région ou non. Pourtant, un avion irakien a ciblé par erreur les navires US, tuant 11 membres de son équipage. Selon M. Tanksiri, lors de la défense sacrée, la marine du CGRI utilisait les anciens missiles chinois HY-2 et c'est avec ces missiles, également en possession des Irakiens, que l'Iran a porté sa première gifle au pétrolier américain, Sungari. Ensuite, nous avons attaqué des navires et abattu un hélicoptère près de l'île de Boumoussa. Nous avons également capturé 4 marines américains avec 2 membres d'équipage koweïtiens. Et la saisie du pétrolier ce mois-ci a été un autre coup porté aux États-Unis par l'Iran. Et dans le cas du pétrolier, les Américains, malgré toutes leurs tentatives, ont échoué. Concernant la saisie du pétrolier vietnamien, le commandant de la marine du CGRI a déclaré: ce pétrolier transportait du pétrole iranien, mais avec le soutien des Américains. Il a refusé de le livrer à l'Iran. Bien sûr, c'était le 2e navire que nous avons saisi et le précédent n'a pas été médiatisé. Pour cette opération, le 1er groupe de troupes a débarqué sur le pont du pétrolier par hélicoptère. Le 2e groupe a débarqué par des vedettes. Mais dès que le navire est retourné vers les eaux territoriales de l'Iran, 2 destroyers américains se sont rapidement approchés du pétrolier afin d'empêcher son transfert vers les eaux de notre pays. À ce stade, nous avions 6 bateaux avec les navires Shahid Nazeri et Siavashi. Dans cette situation, les Américains ont fait voler un hélicoptère sur le navire, mais en raison de l'avertissement qui lui a été donné, il a été contraint de faire demi-tour et, par crainte de ne pas être touché par nos missiles, il éjecta dès l'heure. Bien sûr, nous avions aussi des missiles et des drones armés et de reconnaissance dans la zone, mais puisque nous voulions les écraser, nous n'avons envoyé que 2 bateaux d'artillerie contre des destroyers américains. Les Américains n'entreront pas dans les eaux sous notre contrôle de peur de rencontrer des combattants de la marine du CGRI, a-t-il déclaré. Nous sommes en mesure de produire des missiles d'une portée de 10 à 2000 km et nous avons peur d'aucun ennemi, a-t-il précisé. Le commandant de la marine du CGRI a annoncé que 3 nouveaux navires seront ajoutés à cette force cette année avant de préciser: les navires Shahid Nazeri d'une longueur de 55 mètres et Rossem Soleimani d'une longueur de 65 mètres sont en cours de construction par le ministère de la Défense et le CGRI. Et un autre navire est en cours de construction par une société qui possède des missiles solaires d'une portée de 300 km, capables d'emporter des hélicoptères et ont une vitesse équivalente à 35 nœuds.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle édition du débat. À l'approche de la visite du ministre israélien des Affaires militaires, Benny Gantz, au Maroc, d'importantes manifestations sont prévues dans ce pays. En effet, le comité de soutien à la Palestine a appelé à des manifestations pour dénoncer non seulement cette visite, mais aussi pour exprimer en effet le soutien au peuple palestinien à l'occasion, dans une dizaine de jours, à la population palestinienne, en effet, à l'occasion de la journée internationale du soutien à la nation palestinienne. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher, en effet, sur cette manifestation populaire contre non seulement la visite du ministre israélien des Affaires militaires, mais aussi contre cette tentative de normalisation entre le Maroc et l'entité israélienne, mais aussi l'impact de cette visite sur le Sahara occidental et notamment les relations entre le Maroc et l'Algérie. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Le gourou sioniste Gantz, attendu cette semaine au Maroc, où il est censé inaugurer une première base de drones sous couverture d'usine, risque-t-il de connaître la pire surprise de sa vie? Pourquoi pas? Le Maroc se soulève contre l'entité sioniste. À l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation a appelé les Marocains à descendre dans la rue à travers le Maroc. Selon Arabie 21, le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation a appelé, dans un communiqué publié jeudi 18 novembre sur sa page Facebook, tous ses branches et organes constitutifs, tous les militants et citoyens, hommes et femmes, à participer aux protestations qui seront organisées dans différentes villes et régions dans le pays le lundi 22 novembre 2021. Le Front a souligné qu'il fallait respecter la position de principe du peuple marocain qui continuait de soutenir la cause palestinienne. À la fin de l'année dernière, Israël, le Maroc et les États-Unis ont annoncé la décision de Rabat de reprendre ses relations diplomatiques avec Tel Aviv. Le 29 novembre de chaque année, des événements marquant une solidarité avec le peuple palestinien sont organisés dans un certain nombre de pays du monde. Malgré la vive opposition de son peuple, le Maroc approfondit sa coopération avec Israël, donnant naissance à des accords bilatéraux dans de nombreux domaines, notamment le domaine militaire, selon le site web Observe Algérie. Le Maroc et Israël, qui n'ont en réalité jamais occupé les ponts par le passé, ne cessent d'intensifier leur coopération et l'échange de visites de délégations officielles, des visites qui aboutissent à la signature des accords dans plusieurs domaines. En août dernier, soit 7 mois après la normalisation des relations entre Rabat et Tel Aviv, le ministre israélien des Affaires étrangères Yair Lapid s'est rendu au Maroc. Une visite qui confirme la volonté marocaine de renforcer ses liens avec Tel Aviv, malgré les vagues d'indignation suscitées chez une bonne partie de l'opinion marocaine et dans de nombreux pays arabes.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Permettez-moi de vous présenter tout de suite nos invités. Pour cette émission, nous sommes en ligne depuis Alsace avec Maître André Chamy, juriste international et sociologue, et depuis Paris, si je ne me trompe pas, avec Mme Aïssa Armidani, analyste franco-syrienne des questions internationales. Mme Armidani, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, merci de votre invitation et bonjour à Maître Chamy et à tous vos auditeurs.
On a vu dans le reportage, Madame Midani, la position de principe du peuple marocain consiste à soutenir le peuple palestinien, la cause palestinienne. Et pourtant, en dépit de la vive opposition, en effet, de son peuple, le gouvernement marocain continue de multiplier des accords bilatéraux, notamment dans le domaine militaire, mais aussi de multiplier des échanges, des délégations, en effet, avec l'entité israélienne. Comment expliquer cet écart qui, en effet, continue de déranger les milieux politiques, et surtout populaires au Maroc. Est-ce que là, il s'agit purement d'une tentative de normalisation avec le régime de Tel Aviv, ou bien il faudrait placer en effet cette décision du gouvernement marocain dans un contexte plus large, je veux dire dans le contexte régional et dans ses relations avec l'Algérie?
Je crois que c'est important de rappeler quand même que cette normalisation a eu lieu sous la pression du président Trump, hein, qui était en fonction, et puis à la fin de son règne, il a fait une grande pression sur pas mal de pays, effectivement, qui sont alliés des États-Unis, pour normaliser les rapports avec Israël. Donc c'était le cas de Bahreïn, c'était le cas des Émirats Arabes Unis, et probablement l'Arabie saoudite, mais qui n'a pas vraiment ouvertement fait ce pas, mais aussi beaucoup avec le Maroc. Et en fait, et en disant que de toute façon, le Maroc va pouvoir disposer du Sahara occidental. Ce qui a effectivement tout de suite mis à lécher, je dirais, l'État marocain. Il faut dire que le Sahara, c'est une terre algérienne occupée par le Maroc. En fait, on peut dire que c'est objet d'un conflit aigu entre l'Algérie et le Maroc. Il y a aussi au Sahara un mouvement de libération de Polisario qui cherche l'indépendance. Ce qu'il faut rappeler, donc, c'est à ce moment-là que l'État marocain, ou le roi du Maroc, a sauté sur l'occasion pour accepter et a commencé entre guillemets, la normalisation, le processus de normalisation. Je voudrais quand même rappeler que aussi le peuple marocain a toujours soutenu la résistance palestinienne, a toujours soutenu la cause palestinienne. Ça, c'est sûr que c'est une position populaire. On ne peut plus clair du peuple marocain. Mais en fait, donc de ce fait, en fait, même le responsable israélien qui était dépêché pour représenter Israël au Maroc n'a même pas pu trouver de domicile. Il n'a pas pu trouver quelqu'un qui puisse lui louer une résidence, si bien qu'il a habité chez des amis. Et aujourd'hui, c'est un deuxième pas, en fait. Donc, le peuple marocain a continué à protester. Et on voit qu'aujourd'hui, l'arrivée du responsable israélien au Maroc provoque effectivement une très grande tollée de protestations. Il y a de grandes manifestations qui se préparent. Et pour empêcher cela, sachant qu'en plus, l'objectif caché qui n'est pas tellement annoncé, c'est la création d'une base israélienne ou de différents centres israéliens dans le Sahara occidental. Bien sûr, l'Algérie qui est voisine du Maroc et qui est aussi très fermement qui soutient très fermement la résistance palestinienne, qui est très fermement opposée à la présence israélienne, mais aussi fermement opposée à toute présence aussi dans le Sahara, qui est aussi son arrière-pays, j'allais dire. Donc, en fait, ça s'inscrit dans un contexte à la fois international, régional, parce que international, vu les pressions américaines, parce que Biden n'a pas reculé sur les agissements de Trump, au contraire, bien qu'il l'ait dénoncé à l'époque, mais là, il continue et confirme toutes ces démarches de normalisation avec Israël. Mais la seule différence, c'est le comment et pas du tout l'objectif. Hein. Et puis dans un contexte régional, dans l'objectif de casser une unité des peuples qui se profile effectivement autour de la résistance palestinienne et qui est dans le soutien de leur combat, mais aussi dans un contexte donc à la fois régional, local.
Merci, Madame Hidalgo.
Et par rapport à la question palestinienne.
Merci pour ces précisions. Restez avec nous, s'il vous plaît. On va tout de suite rejoindre Alsace, Maître André Chamy, juriste international et sociologue. Maître Chamy, bonjour et merci infiniment d'être en ligne avec nous.
Bonjour à vous, ainsi qu'à Madame Medani, et puis merci pour votre invitation.
Et pour vous, Maître Chamy, dans quel contexte replacez-vous cette prochaine visite du ministre israélien des Affaires militaires au Maroc, tout en sachant que cette visite, comme Mme Hidalgo l'a souligné, a provoqué des vagues d'indignation, en effet, dans ce pays?
Écoutez, il faut revenir un petit peu à l'histoire. Les relations entre le Maroc dit officiel et Israël existent depuis le roi Hassan II. Hein. Il a toujours caché ses relations, mais en réalité, il ne les a jamais interrompues. Et le fils a suivi le chemin du père. Ils sont dans les sillons de la politique américano-sioniste dans la région et évidemment, ils conduisent leur pays dans ce sens-là. Que la population suive ou pas, eux, ils s'en moquent parce que c'est un État, une véritable dictature. On peut pas l'appeler autrement parce qu'on peut toujours essayer de choisir les mots, essayer d'édulcorer les expressions en matière politique pour être un peu plus diplomate, mais en réalité, le Maroc officiel, c'est-à-dire le roi et ses sbires, aussi bien le père que le fils, sont toujours dans les mêmes sillons. Au début, ils disaient que c'était dans le cadre de la relation avec les Juifs de Maroc, mais en réalité, ce cadre a été dépassé et de loin, et depuis très très longtemps, y compris pendant les périodes, si j'ose dire, où les tensions étaient très fortes entre les pays arabes et l'État sioniste. Aujourd'hui, ce n'est qu'une transformation déclarée de cette relation officielle, puisque aujourd'hui, le Maroc ne s'en cache pas, malgré la résistance d'une partie de la population, parce qu'il y a une partie aussi qui n'ose pas manifester. Ces manifestations ne sont pas récentes, puisque déjà au mois de mai, me semble-t-il, des manifestations ont eu lieu et ont éclaté, mais il n'y a pas eu de suite. Et aujourd'hui, ça recommence à l'occasion d'une visite officielle israélienne au Maroc. Mais les visites des deux côtés pour se poursuivre, les relations à tous les niveaux existent. Le Maroc ne s'en cache plus. Le Maroc, encore une fois, officiel. Là, de là à dire que le Maroc populaire, le Maroc qui est considéré comme une nation, est toujours d'accord avec le pouvoir, il y a un pas à ne pas franchir. Mais encore une fois, en raison de la brutalité du régime, en raison du caractère policier du régime, il y a une partie de la population qui ne bougera pas. Il y a une partie de la population qui a toujours été en quelque sorte résistante par rapport au régime, mais évidemment bouge. Est-ce qu'on doit placer ce déplacement israélien dans un cadre beaucoup plus global? Probablement, mais ce déplacement israélien n'est qu'un pas supplémentaire par rapport à ce qui est en train de se tramer dans toute la région. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'extraire ou l'exclure de ce qui se prépare avec les autres pays qui ont d'ores et déjà normalisé avec l'entité sioniste, que vous preniez les Émirats arabes unis, que vous preniez le Bahreïn, que vous preniez d'autres pays qui sont en train de basculer. Alors, on parle de la Tunisie, on parle de la Libye, on parle de Haftar. En tout cas, le fils Haftar a eu un déplacement en Israël. Vous avez une tentative qui a eu lieu en Irak, puisqu'il y a eu une bande de politiciens qui sont réunis à Erbil pour dire qu'il faudrait maintenant commencer une normalisation avec Israël. Il faut toujours prendre l'ensemble de ce qui se passe dans la région dans l'analyse. Il y a une manipulation des Américains et des sionistes dans la région qui essayent de faire basculer. Pour l'instant, l'axe de la résistance est beaucoup plus fort. Prenez maintenant, il y a des déclarations, y compris au Liban, le pays par excellence de la résistance. On commence à voir des voix que j'appellerais dissidentes, notamment des journalistes qui commencent à dire oui et pourquoi pas, et pourquoi ne pas considérer que l'Israël comme un voisin tout simplement et pas comme un ennemi. Et il y a eu des discussions, en tout cas des polémiques à ce sujet-là, notamment un journaliste dont le nom est Rané, mais je ne me rappelle plus de son prénom. Pareil, il y a eu ces tentatives-là. Il y a des leviers qui sont utilisés par les Américains pour voir à quel moment on fait craquer de la résistance. Merci. Aujourd'hui, la guerre est ouverte avec l'axe de la résistance. Et comme sur les grands fronts, les sionistes et les Américains ont échoué, ils essaient de faire basculer les opinions dans certains pays pour dire, et pourquoi pas ne pas aller dans le sens de la normalisation, parce qu'on revient avec la rengaine, ça sera fructueux pour l'ensemble de la région, les peuples peuvent échanger, et par conséquent, ça baisserait les tensions, et tout le monde y gagne. Mais en réalité, non, personne ne peut y gagner, à l'exception des sionistes, si jamais la voie de la normalisation est empruntée. Regardez voir ce qui se passe aux Émirats arabes unis, regardez voir ce qui se passe au Bahreïn, même regardez voir ce qui se passe en Arabie saoudite, c'est une perte totale de l'autonomie parce que l'Arabie saoudite devient de plus en plus dépendant et des Américains et des sionistes qui les poussent encore de
Merci,
plus
Maître
en plus
Chami.
Et aller de manière officielle dans les bras des Israéliens. Nous Merci. Sommes aujourd'hui sur un tournant, nous verrons par la suite ce qui va se passer.
Merci pour ces précisions. Restez avec nous. Madame Idani, quelles seront les répercussions nationales, régionales, mais aussi internationales, en effet, de cet alignement, comme disait Maître Chami, du gouvernement marocain, de ce Maroc qui est officiel, en effet, sur la politique américaine sioniste?
Je pense qu'il y a effectivement eu beaucoup, beaucoup d'argent qui est dépensé pour servir Israël de la part des Américains et tous leurs alliés dans la région. De toute façon, ce qui s'est passé contre la Syrie, par exemple, la guerre contre la Syrie n'était que pour servir Israël. Justement, Maître Chami a bien souligné le Bahreïn, les Émirats arabes unis. Je crois que c'est en fait ça dépasse les premiers pas qui ont été franchis par la Jordanie et l'Égypte à travers les accords Wadi Araba et Camp David et qui ont fait aussi que les gouvernements sont complètement isolés aussi par rapport à la population et aujourd'hui ils reviennent un peu plus vers la Syrie et donc vers un soutien même peut-être du bout des lèvres de la Palestine, de la résistance palestinienne, ou de la Palestine tout simplement parce que en fait ils voient que eux-mêmes sont complètement attaqués et leur peuple, pas seulement leur peuple, mais leur pays en fait, leur souveraineté est complètement attaquée en fait dans ces accords. Par contre, c'est vrai que là, ils vont très vite en besogne, aussi bien aux Émirats arabes unis qu'au Maroc. Ils vont jusqu'à faire des accords de coopération au niveau de la sécurité, de coopération au niveau des renseignements, au niveau des échanges de fichiers. Et là, je crains que le Maroc continue aussi dans ce sens, mais là, la visite, c'est comme j'avais dit, en fait, c'est pour inaugurer une base donc dans le Sahara occidental, inaugurer aussi peut-être des fouilles pour le pétrole et le gaz dans cette région, et puis créer une base militaire qui serait une base d'assaut contre l'Algérie. Donc l'Algérie réagit très violemment aussi, très fortement. Et à juste titre, de même que le peuple marocain. Je pense qu'il va y avoir effectivement des violences et puis des mises en garde et puis des positions très, très fortes dans la région. Peut-être même qu'il y aura des échauffourées militaires et populaires, sachant que surtout les deux peuples, algériens et marocains, sont tous les deux vraiment unis dans le soutien aux Palestiniens. Il y a un point qui est important aussi, ce qui se passe en Tunisie aujourd'hui. En fait, c'est quelque chose de très important qui va peut-être dans le sens du soutien à la résistance palestinienne de manière très claire et qui va aussi
merci,
la défaite d'Ennahda, qui est le parti des frères musulmans, est très importante aussi dans la défaite de cet axe qui est contre la résistance palestinienne et
merci.
Contre l'axe de la résistance. Merci.
Merci, merci infiniment. Une toute dernière question à Maître Chami. Maître Chami, il nous reste 3 minutes. Avec l'implication d'Israël, à quel scénario faudrait-il s'attendre dans ce nouveau terrain de confrontation, à savoir le Sahara occidental?
Il y a incontestablement une volonté de raviver ces tensions. Et à chaque fois que deux pays arabes se battent entre eux, c'est une charge en moins pour l'entité sioniste. Ça a toujours existé, hein. Regardez voir ce qui se passe au Yémen avec l'Arabie Saoudite, regardez voir ce qui se passe avec la Syrie grâce au pétrodollar et la volonté de détruire l'entité syrienne, regardez voir ce qui se passe en Irak. On a souvent pointé l'aide des Saoudiens encore une fois pour la destruction de l'État irakien, ce qui a à un moment donné suscité quelques tensions et puis ensuite ça s'est calmé. Mais en réalité, l'Arabie Saoudite continue d'alimenter d'une manière ou d'une autre ce qui se passe en Irak et notamment les fronts de tension. Regardez voir ce qui se passe en Libye avec les Émirats Arabes Unis, avec l'Égypte, avec l'ensemble des acteurs arabes. C'est toujours satisfaisant, même si en filigrane, ils peuvent intervenir pour l'un ou pour l'autre. Mais en réalité, les Israéliens sont toujours satisfaits quand il y a ces tensions-là et en même temps, ça détourne du vrai problème, c'est-à-dire le problème palestinien, et en même temps, ça évite l'accélération de l'agrandissement, sinon l'élargissement de l'axe de la résistance. Parce qu'il y a des peuples dans la région qui sont tentés de rejoindre l'axe de la résistance. Je vois des frémissements, si j'ose dire, en Tunisie, c'est clair, c'est net. Il y en a également en Égypte, c'est clair, c'est net. Mais à un moment donné, il faut que le basculement ait lieu. Et l'Égypte a failli, à mon sens, basculer à un moment donné, à l'époque où il y a eu Morsi, sauf que lui, il a retourné sa veste, mais l'Égypte, à l'époque, était totalement prêt à rentrer dans l'axe de la résistance. Et Morsi, avec son courrier, cher ami au président israélien, et ça a évidemment laissé un froid et a montré que finalement, il a utilisé ses relations plutôt agréables avec l'axe de la résistance pour accéder au pouvoir. Une fois qu'elle a accédé au pouvoir, il a retourné sa veste. Nous sommes dans une phase où beaucoup de pays peuvent basculer d'un côté comme de l'autre et maintenant tout le monde court après la possibilité de récupérer telle ou telle force. Et plus la force est importante, plus l'axe d'un côté ou de l'autre deviendrait plus fort. Aujourd'hui, les Américains essayent d'utiliser leur dernière carte. Nous avons vu ça dans les pays du Golfe, mais ces dernières cartes ont montré leurs limites parce que ce ne sont pas des pays qui peuvent apporter une plus-value à l'axe pro-sioniste, ce sont des pays qui sont plutôt à protéger. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui les pays les plus forts se trouvent du côté de l'axe de la résistance, surtout avec la Syrie et le Liban, et je mettrai le Liban, pardonnez-moi Madame Midani, en première ligne, parce qu'aujourd'hui, il est incontestable que le discours de Saïd Hassan Nasrallah, le dernier discours qui réaffirme la crainte de l'antisionisme par rapport particulièrement au Hezbollah, et prend toute son ampleur parce qu'aujourd'hui, le Hezbollah n'est plus un simple parti politique au Liban, c'est devenu une puissance régionale qui fait craindre à l'État sioniste un basculement qui peut être particulièrement existentiel, et je dis bien existentiel parce que ce n'est pas l'entrée dans les premières colonies israéliennes en territoire occupé qui compterait, mais ce que ça générerait derrière, c'est-à-dire il y aura une exode massive de la part de ceux qui se sont installés, ce qu'on appelle les nouveaux arrivants, qui croyaient avoir une sorte de havre de paix en territoire occupé, puis finalement, ils vont comprendre qu'il n'y a plus de terre sécurisée. Merci, en Palestine, et à ce moment-là, ça va les pousser indiscutablement à repartir et bien entendu à faire l'exode dans le sens inverse.
Maître André Chami, juriste international et sociologue, Madame Essar Midani, analyste franco-syrien international, merci infiniment d'avoir... Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité africaine. Des navires de guerre russes ont accosté au port d'Alger afin de participer à l'exercice naval interarmé 2021 avec la marine algérienne et promouvoir des actions conjointes des forces maritimes algéro-russes, a indiqué dans un communiqué le samedi 13 novembre le ministère de la Défense nationale. Dans le cadre de la concrétisation de la coopération militaire algéro-russe au titre de l'exercice 2021, un détachement de navires de la flotte de la mer Noire, composé de la frégate de l'amiral Grigorovitch, du patrouilleur Dimitri Rogachov et du bateau de sauvetage SP-60, SP-742 est arrivé vendredi 12 novembre 2021 au port d'Alger pour participer à l'exercice international exercice naval interarmé avec des navires de la marine algérienne. Le communiqué ajoute que l'exercice se poursuivra et que les deux flottes mèneront des exercices de communication, des séances, opérations conjointes, une formation des équipes d'inspection, un exercice de démonstration sur le contrôle des dommages dans le but d'échanger les expériences et de consolider la coordination commune. Un calendrier de réformes politiques sera bientôt élaboré, a annoncé le président tunisien. Le président tunisien Kais Saied a annoncé le démarrage d'un processus d'élaboration d'un calendrier de réformes politiques. En marge d'un conseil des ministres qu'il a présidé ce jeudi, M. Kais Saied a assuré que les réformes politiques devraient répondre aux revendications des Tunisiens. Le peuple veut assainir son pays. Cela ne serait accessible et faisable que grâce à une justice équitable et juste, en plus de magistrats loin de tout soupçon, a par ailleurs souligné le président Saïed. Il faut avouer que certaines parties provoquent exprès des problèmes fictifs pour l'unique raison de faire diversion et distraire le peuple de ses réels problèmes, indiqués. Le président tunisien. La force Barkhane a transféré à l'armée malienne la base de Tessalit dans le nord du Mali dans le cadre de la restructuration de ses opérations au Sahel, a annoncé l'état-major français. Après celle de Kidal, l'emprise occupée par la force Barkhane à Tessalit a été transférée le 13 novembre aux forces armées maliennes. Les derniers soldats français ont quitté le site le 15 novembre, indique un communiqué de l'état-major. Ce transfert a été progressif, maîtrisé et étroitement coordonné avec les forces armées maliennes et avec la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MUNISMA, dont un contingent de plusieurs centaines de militaires est déployé en permanence à Tessalit, selon le document. Paris a entrepris en juin de réorganiser son dispositif militaire de lutte contre le terrorisme au Sahel, en quittant notamment les bases les plus au nord du Mali et en prévoyant de réduire ses effectifs dans la région d'ici 2023 à 2503 000 hommes contre plus de 5 000 aujourd'hui. La base de Kidal avait été rétrocédée aux Maliens mi-octobre. Reste désormais celle de Tombouctou. Les relations entre Paris et Bamako se sont envenimées le 25 septembre lorsque le premier ministre de transition malien Maïga a accusé la France engagée militairement au Mali depuis 2013 d'abandon en plein vol. Des critiques censées justifier le possible recours au groupe de sécurité privé russe Wagner, décrit comme proche du président russe Vladimir Poutine, pour compenser la réduction de voilure de Barkhane. L'Union européenne a trouvé un consensus parmi ses 27 membres pour sanctionner la société de mercenaires, a annoncé à cet égard le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. Mais l'armée française insiste de son côté sur les bonnes relations avec les forces de Bamako. L'ONU condamne les violences tout à fait honteuses contre les manifestants. Les violences des forces de l'ordre soudanaises contre des manifestants désarmés sont tout à fait honteuses, a dénoncé Michelle Bachelet, la haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, après le bilan sanglant de mercredi et de nouvelles violences jeudi. C'est tout à fait honteux que des tirs à balles réelles aient été effectués contre les manifestants après de non multiples appels aux militaires et aux forces de sécurité à ne pas faire usage d'une force disproportionnée contre des manifestants, a déclaré Mme Bachelet dans un communiqué. Mercredi, au moins 11 des 15 manifestants ont été tués au cours de la journée la plus sanglante depuis le coup d'État du 25 octobre, sont tombés sous le balle des forces de sécurité qui visaient, selon un syndicat de médecins pro-démocratie, la tête, le cou ou le torse. Madame Bachelet évoque ce même bilan et dénonce également le fait que, selon les sources médicales dignes de foi, sur plus d'une centaine de blessés, 80 étaient touchés par des tirs au corps et à la tête. Tirer sur la foule de manifestants sans armes, faire des dizaines de morts et bien plus encore de blessés est lamentable et a clairement pour but d'étouffer l'expression publique d'opposition et de revient à des violations grossières des règles internationales de protection des droits de l'homme, a ajouté l'ancienne présidente du Chili. Elle a aussi dénoncé la coupure totale des télécommunications et de l'Internet de nous permettant de communiquer avec le pays que par téléphone satellitaire. des coupures généralisées de l'Internet et des télécommunications violent les principes de nécessité et de proportionnalité et de contreviennent aux lois internationales, a-t-elle ajouté encore. Le programme alimentaire mondial PAM des Nations Unies a lancé vendredi le tout premier programme innovant visant à promouvoir des solutions locales pour relever les défis des systèmes alimentaires au Soudan du Sud qui connaît une situation d'insécurité alimentaire. Le représentant du PAM dans le pays a déclaré qu'il est ciblé les entrepreneurs sud-soudanais pour chercher des idées innovantes avec le soutien pour l'Afrique de l'Est afin de fournir des solutions pour améliorer la sécurité alimentaire. Environ 760 000 Sud-Soudanais ont été touchés par des inondations qui ont causé des ravages dans le pays. Selon un récent rapport publié par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO et le PAM, le déficit de la production céréalière du Soudan du Sud est estimé à un niveau record de 465 000 tonnes en 2021. Eh bien, ici touche à sa fin cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Thank you.